La poésie de Thomas Elwood, ses écrits ont été, lorsque cela était possible, actualisés dans la langue. Le texte en bleu clair ou en bleu clair gras peut être cliqué pour obtenir un renvoi à l'écriture ou des détails dans les écrits. Lorsque vous avez cliqué vers la Bible en ligne, vous pouvez changer et mettre à jour afin d'afficher la version biblique que vous préférez. Paix intérieure, je vous donne ma paix. Jean 14, 27 qu'il peut concevoir, et encore moins exprimer, la paix intérieure qu'il possède ceux qui, par la présence de la lumière en eux, ont mis en fuite les puissances sataniques, en qui renouvelé et né de nouveau le Seigneur de la vie vieille règne, renouvelé, restauré, purgé, purifié, et les vagabondages naturels mis de côté, lavé par le sang, gardé par la grâce, de sorte que le péché en ne trouve à peine place, le temple balayé, préparé, puis béni de la présence d'un hôte céleste, un hôte. Ô amour immense, sans limite, pour tous ceux qui se trouvent dans la vérité, les mots sont trop courts pour l'exposer dans toute son étendue et sa valeur véritable. L'épouse qui repose sur le sein est précieuse aux yeux du mari, le nourrisson est tout proche, le fils unique, infiniment cher, tendre est la prunelle de l'œil, ami et parent tout près, mais pourtant cet amour surpasse de loin celui pour l'épouse, l'enfant, l'œil, le parent, l'ami. Toutes ces métaphores sont trop faibles pour montrer la nature de cet amour. Aucune langue ne peut déclarer combien ces enfants sont chers à Dieu, on n'en ressent que le sentiment qui brise le cœur et le fait fondre. Thomas Elwood, Fro Diabolica, elle au diable a dupé les hommes par une ruse, quand d'abord il leur apprit à s'opposer à la lumière, car lui-même demeure dans les ténèbres, et celui qui est la lumière doit nécessairement être dans les ténèbres, vraiment un artifice d'orgueil. Il sait que ceux qui fuient la lumière doivent courir vers les ténèbres les plus épaisses, et il a si habilement disposé son complot, qu'il a trahi main simple, pour qu'il foule le sentier qui mène à la sombre cellule de la mort, jusqu'à ce que, par une triste méprise, ils arrivent en enfer. Thomas Elwood, loyauté, je sais que mon cœur est loyal envers mon prince, je n'ai jamais nourri de pensée déloyale, et si ma plume ou ma langue a causé offense, cette erreur a été commise par ignorance. Pourquoi, lorsque cela sera prouvé, je crierai miséricorde, et je vivrai avec reconnaissance, ou je mourrai sans me plaindre. Thomas Elwood, Edward Burroughs, était un jeune ministre quaker puissant, qui convainquit pour la première fois Thomas Elwood de la vérité. Il mourut en martyr en prison, à l'âge de 28 ans. Le roi, apprenant son emprisonnement et sa maladie, envoya un ordre de le libérer. Mais le maire de Londres, farouchement opposé au jeune ministre quaker, efficace, qui convainquait des milliers de quitter l'église d'Angleterre pour devenir quakers, retarda la libération jusqu'à ce qu'il mourût. Elwood et de nombreux quakers furent accablés par cette perte. Elwood reprend le récit. « Enfin, ma muse, ne supportant plus de rester muette, éclata dans l'acrostiche suivant. » Un type particulier de poème dans lequel la première lettre de chaque ligne compose aussi un message ici, dans cet acrostiche, Elwood's Lamentation for his Indeed Edward Burroughs qu'elle intitula. Une élégie pathétique sur la mort de ce cher et fidèle serviteur de Dieu, Edward Burroughs, qui mourut le 14 du 12e mois, 1662. Et ainsi elle s'amuse, le poète intérieur l'introduisit, sait combien de temps le chagrin restera-t-il étouffé, à combien de temps le sceau du chagrin scellera-t-il ma langue silencieuse. Combien de temps les soupirs m'étoufferont-ils, et feront-ils trembler mes lèvres et souffrir mon cœur? Combien de temps réprimerai-je dans la douleur mes cris, et chercherai-je des trous pour essuyer mes yeux humides? Pourquoi ne puis-je pas, ainsi accablé de tristesse, verser mon chagrin dans la poitrine d'un autre? Si cela est vrai, ce que dit jadis quelqu'un, que celui qui se lamente seul se lamente vraiment, alors je puis vraiment dire que mon chagrin est vrai, puisqu'il n'a encore été connu que de bien peu. Et ce n'est pas mon but maintenant de le faire connaître à ceux à qui ces vers pourraient être montrés, mais d'apaiser mon cœur gonflé de tristesse, que le silence a fait goûter si profondément l'amertume. Voici ma fin, prévenir l'éclatement du vase par un exutoire opportun. Qui peut s'abstenir, lorsqu'il entend dire de telles choses, d'arroser sa tombe d'un torrent de larmes, accent aigu chaud, vous bois résonné, vous lieu creux, que les larmes et la pâleur couvrent le visage de tous les hommes. Que les gémissements, tels des coups de tonnerre, perce l'air, pendant que je déclare la cause de mon juste chagrin. Ô que mes yeux puissent, comme les fleuves du Nil, déborder leurs rives d'eau, et vous, pendant ce temps, buvez mes larmes qui ruissellent, au sol assoiffé. Ah, ainsi vous porteriez désormais un fruit plus abondant. Pélin, mon âme, plein, ta perte est profonde, ôtez tous ceux qui aimions, asseyez-vous et pleurez. Pélorez, ô vierge, et que la tristesse soit la dot de chaque jeune fille, et hélas pour moi. Nam et mes soupirs n'aient jamais de fin jusqu'à ce que j'embrasse de nouveau mon ami monté au ciel. Ôtez jusqu'à ce que je sente la vertu de sa vie pour me consoler et réprimer mon deuil. Verse dans mon cœur l'huile de la joie que j'en ai besoin, et par sa force ôte cette tristesse qui maintenant accable mon esprit, et rend pleinement cette joie que j'avais en lui auparavant. Dès que je voudrais balbutier volontiers un mot, plutôt pour soulager mon cœur que pour montrer sa valeur. Est-ce aval? Accent aigu une vie, va-t'en, noir Momus quitte les lieux, Momus le dieu grec des poètes et ne revient plus, Zoïl, montrez ton visage ridé. Zoïl, un philosophe grec approché, vous cœur saignant, dont les douleurs sont à accent aigu égales aux miennes, en lui vous aviez part semblable. Ajoutez toutes vos pertes, et vous verrez qu'il ne restera rien d'autre que malheur à moi. Agneau chéri, vous qui avez la pierre blanche, et savez fort bien son nom, c'est le vôtre. Qu'eût soit éternisé ce nom vraiment digne, et la mort n'a tué que son corps, non sa renommée, qu'eût dans son éclat demeurera à jamais, ôté comme une boîte de parfum exhalera une douce odeur. Justice était son habit, une brillante majesté ornait son front, son regard était céleste. Intègre était-il dans la crêle de son maître, et intrépide, fidèle au commandement de son seigneur, et rendant le bien pour le mal, dirigeant tout juste dans la voie qui conduit hors de la chute. Ô vert et libre envers tout agneau assoiffé, immaculé, pur, net, saint, sans reproche. Et la gloire, la lumière, la splendeur, l'éclat, était sa couronne, acheureux pour lui fut son changement, la perte est la nôtre. Isel n'y a que la vertu, dont la preuve devrait être, qui rend les hommes heureux, même au-delà de la tombe. Alors que j'avais ainsi exhalé mon chagrin, dans l'espoir d'en obtenir quelque soulagement, j'entendis, me sembla-t-il, sa voix dire « Cesse de pleurer, je vis ». Et bien que le voile de chair autrefois porté soit maintenant dépouillé, dissous et mis de côté, mon esprit est avec vous, et y demeurera. Cela me suffit. Je jetai ma plume, désireux de me résigner à la pure volonté de Dieu. Thomas Elwood, la biographie, les lettres et les écrits de Burroughs sont disponibles sur ce site. Pensées ces ont bien de temps, hélas, les vaines pensées demeureront-elles en moi, et trouveront-elles une cachette dans mon sein. Combien de temps, avant que je sois vainqueur, et que je remporte la victoire sur moi-même? Ah, que c'est déplaisant lorsque je trouve qu'une petite pensée triviale possède mon esprit. Souvent je me suis appliqué à garder la porte pour qu'aucune vaine cogitation n'entre plus, et j'ai même compté pour garder une veille si stricte que rien n'y glisse sans examen. Mais soudain, quand je m'y attendais le moins, une pensée oisive a été insinuée par Satan, qui, tel un petit voleur, a ouvert toute grande la porte pour que de plus grands vagabonds y entrent. Je ne me fierai plus à moi-même, je vois que c'est vain, l'homme, de lui-même, ne peut obtenir la victoire. Vers lui je me tournerai, de qui, je le sais, vient tout don bon et parfait. Je mendierai son secours, j'implorerai son aide, lui qui, pour l'impuissant, a toujours de l'aide en réserve. Toi, berger d'Israël, toi seul peux garder mon âme, toi qui ne sommeille ni ne dors, toi qui es partout, qui remplis tous les lieux, qui es à la fois puissance parfaite et volonté parfaite, tu suffis à tout. Aucune pensée ne peut échapper à la vigilance de ton œil qui discerne tout. Et toi, cher Père, tu as aussi ordonné à tes enfants de se décharger sur toi de tous leurs soucis, ce que je fais très volontiers, mais pourtant non pas de sorte qu'à l'avenir je devienne négligent moi-même, non je résous d'être toujours en garde, non. Établis la veille, ô Seigneur, désigne la garde, donne la charge, ô aide-moi ainsi à repousser, qu'aucune vaine pensée ne glisse dans mon esprit, mais qu'elle soit étouffée dès l'embryon, toi qui as accompli pour moi une grande délivrance, délivre-moi aussi de toute pensée oisive. Thomas Elwood, à ceux qui se tiennent oisifs sur la place du marché, pourquoi gaspillez-vous ainsi votre temps? Pourquoi êtes-vous si prodigue d'un tel trésor? Pensez-vous avoir un autre jour? Vous qui usez si mal du présent, comment cela se pourrait-il? Le moment passé ne reviendra plus, l'heure gaspillée ne peut jamais être rappelée, le vieux chrono n'a qu'une pauvre mèche devant, chrono, personnification du temps derrière, sa tête est complètement chauve, prends-moi cela. Soyez donc sage à temps, tandis qu'une heure vous est encore prêtée, de peur qu'une fois vainement dépensée, elle ne soit plus jamais en votre pouvoir, quand bien même, en pleurant, vous la chercheriez de vous repentir, car Dieu est juste. Et bien qu'il invite souvent l'homme à cesser le mal et à accepter la grâce pourtant, si l'insensé persiste à mépriser son amour, la miséricorde se retire, la justice prend sa place, et il doit mourir. Thomas Elwood, il y a longtemps je défaille, mon souffle mourant ne suffit pas à faire naître mes mots, ma langue hésitante cède sa fonction à mes yeux en pleurs, parlez, yeux, et ne faites pas tort à mon cœur fidèle. Vous, fontaine de cristal, ouvrez largement vos vannes, laissez couler vos larmes comme un flot plein et débordant, levez les pertuis, que le torrent s'écoule dans son cours naturel, qu'il soit rapide ou lent. Thomas Elwood, un état béni soit l'homme dont le cœur est trouvé, quand viennent les épreuves, droit et solide, que ni l'espoir du plus grand gain, ni la crainte de la douleur la plus tourmentante, ni même le plaisir le plus magnétique, ni les honneurs amassés sans mesure, ne peuvent faire reculer ou dévier, et quitter le chemin étroit pour le large. C'est cet état sur lequel mon regard est fixé, oh, qu'aucun nuage ne vienne jamais s'interposer, mais que mon cœur désormais demeure toujours dans ce qui surpasse toutes les choses terrestres, car lui seul peut tenir au terrible choc, dont la maison est bâtie sur le rocher éternel. Thomas Elwood, culte divin, mais c'est en vain qu'il me rende un culte, enseignant comme doctrine des commandements d'homme. Matt 15:9, cette première section entre crochets est une préface compliquée au poème, niant le pouvoir de la chair poétique et implorant l'esprit de donner puissance à sa plume. Déu culte j'ose présumer chanter, pourtant des neufs je n'implore aucun secours, Shiloh surpasse la source de Castali, Castali, une religion vaguement définie assiste, puissance bénie que j'adore, souffle sur ma muse, et remplit sa plume muse, son poète intérieur de rosée sacrée du Mont Hermon. Mont Hermon, lieu de la transfiguration que Momus en aille, fuyez tous, vain, Momus, le dieu grec des poètes, vous qui placez l'esprit des poèmes dans des accents fleuris, ma muse est simple, un beau drap vaut mieux qu'une dentelle fantasque sur un tissu grossier, je laisse ces envolées, kersais, une étoffe grossière, à ce que la fiction charme le plus. Qu'ils évitent aussi le lieu, s'ils se trouvaient de cette engeance railleuse, si dépourvue de grâce, qu'elle se moque de l'influence de l'esprit, à telle ma muse n'apporte aucun plaisir, eux qui méprisent la puissance par laquelle elle chante. Mais venez, vous tous qui embrassez la vérité, dont les âmes aiment la religion pure, qui estimez le don de la grâce sacrée, dont le trésor est dans les royaumes d'en haut, oui, tous ceux qui ne sont pas ennemis, approchez, et accordez à mon chant une oreille bienveillante. Au premier temps, lorsque l'homme fut créé, avant que le sacerdoce fût circonscrit, tant que la vérité demeura dans la maison d'Adam, et que Dieu était adoré par toute l'humanité, aucune forme de culte telle qu'elle apparaît n'avait été prescrite pendant de longues années. Tant que les hommes avaient commerce avec Dieu, et l'attendaient dévotement, lui, dans sa grâce, qu'il veille ou qu'il dorme, éclairait tellement leur esprit, qu'ils connaissaient non seulement sa volonté, mais qu'avec son aide ils pouvaient l'accomplir. Avant le déluge, et longtemps après, les patriarches furent dirigés, tant pour faire retentir leur chant, que pour ouvrir le ciel par la prière, quelque acte que le Seigneur exigea, il en inspirait leur cœur. Mais après cela, le ciel décréta, par un amour particulier pour Abraham, que sa postérité serait consacrée à lui et porterait son nom. Un culte fut demandé de leurs mains, qui consistait en observance. Ce qu'il fallait offrir, quand et où, chaque partie en était soigneusement exprimée. Les divers modes prescrits étaient pour les sacrifices et le reste. Des temps fixés étaient établis pour les fêtes solennelles, distinction entre bêtes pures et impures. Ce culte légal, tel qu'il consistait en viandes et boissons, et rites charnels, était figure de ce bien éternel, Hébneuf, auquel l'Évangile invite tous, le plus long terme qu'il put revendiquer n'était que jusqu'à ce que vint la Réformation. Quand ce temps favorable approcha, lorsque l'aurore de ce jour fut venue, la parole, descendant d'en haut, prend chair sans péché dans le sein d'une vierge. À cette naissance bénie, l'armée du ciel se réjouit et répand ses hymnes d'une voix ravie. Shiloh, si souvent annoncé, étant ainsi venu, sa mort déchira le voile du temple, et, étant la somme de ses figures, cette dispensation prit fin, il convenait que le serviteur se retirât quand il vit la présence du Maître. Mais néanmoins, le Christ voulant abolir un culte en usage depuis si longtemps, et annuler l'état légal, il en introduisit un meilleur, cette loi n'était pas taillée dans le marbre, mais placée dans le cœur et la conscience, car ainsi les prophètes, au nom de Dieu, tant que la loi était encore en vigueur, proclamèrent avec autorité, il a dit celui qui rend bon ce qu'il dit. Après ces jours, dans le cœur Jer 31-33, Ésée 11-19-20, je mettrai ma crainte et j'y impartirai la loi. De nouveau et il arrivera, Joël 2, que je répandrai mon esprit sur toute chair, sur le jeune et le vieux, le garçon et la fille, ils sentiront la vertu de cette pluie, on ne cherchera pas la loi auprès du prêtre, mais tous vos fils seront enseignés de Dieu. Heureux ceux qui ont un tel maître, et lui prêtent une oreille docile, il les sauvera de tout ce qui est nuisible, s'ils persévèrent dans sa loi. Oh, si l'humanité y marchait, et ne se contentait pas d'en parler, les uns contre, les autres pour. Le Fils de Dieu, qui est venu du ciel, et a pleinement opéré la rédemption de l'homme, rencontrant la femme samaritaine, enseigna le vrai culte approuvé, ni en cette ville Jérusalem ni sur cette montagne, quoique révérée pour la source de Jacob. Mais ceux qui veulent adorer le Père, qu'ils soient esclaves ou libres, âgés ou jeunes, doivent adorer non comme autrefois en figure, mais en esprit et en vérité, Dieu est esprit. Parmi juifs et grecs, ils cherchent de tels adorateurs intérieurs, non ceux qui servent par des répétitions ou dans des prescriptions, comme les juifs, ni dans des traditions orales et vaines, telles que les samaritains les employaient. La foi juive reposait sur des symboles, celle des Samaritains n'a jamais été bonne. Type, ombre, sacrement et signe, appartenaient à cette dispensation. Celui qui s'unit au culte de l'Évangile doit laisser les ombres à l'état ombreux. Ce n'est pas le veau gras qui bondit, qu'on offre maintenant, mais les veaux des lèvres. Action de grâce et louange, voilà des sacrifices très agréables à Dieu, lorsqu'ils jaillissent d'un cœur pur qu'il prépare, et qu'ensuite il excite à chanter ses œuvres. Les vrais chrétiens utilisent à la fois cœur et langue, chaque fois qu'un hymne ou un psaume est chanté. non pas psalmodiés, sur un ton formel, des états évoqués dans l'ancien chant, dénaturant ce qu'écrivit le psalmiste, dont le cas ne peut appartenir à tous, il faut apporter sa propre expérience, chanter avec l'esprit et avec intelligence. Au lieu de l'encens pour parfumer l'autel, s'élève de l'âme en flamme, qui réchauffe sans consumer soupir, supplication, gémissement et cri, qui, bien que faible, ne manque jamais de prévaloir à la fontaine de miséricorde. Nous ne savons pas quoi demander, Paul l'a enseigné, Rome 8, 25-27, qui donc fixera des formes. La vraie prière est produite par l'Esprit, dont le ciel oint chaque enfant, celui qui sait le mieux ce dont nous avons besoin en sait intérieurement ce qu'il faut implorer. Voici donc la somme du culte, attendre dans l'Esprit le Seigneur, afin que lorsqu'il daigne venir, l'âme entende sa parole vivante, et accomplisse avec empressement ce qu'il fait connaître comme étant sa volonté. Car lorsque l'Esprit demeure attaché à Dieu, dans le silence attendant d'être instruit, les affaires du monde sont mises de côté, et nul permis n'est donné à une vaine pensée, le Seigneur s'approche de cette âme, et remplit son oreille d'instruction. Toujours instruite, l'âme s'attache, le Seigneur communique sa vertu. Il laisse des révélations de sa volonté, qui agissent sur le cœur, il prépare un sacrifice, qu'il s'agisse d'actions de grâce, de louange ou de prière. Grand est le plaisir que Dieu prend à de telles offrandes, à ses yeux cette âme est chère, il ne l'abandonnera pas, mais écrira son nom dans son livre, les joies que ressent l'obéissant, ni les hommes ni les anges ne peuvent les révéler. Thomas Elwood a un ami en Amérique, mon cœur est avec toi, mais je n'ose pas me donner le plaisir d'une pensée vagabonde, que je puisse vivre assez longtemps pour voir le jour où je serai conduit en Amérique, où je pourrai trouver cette solitude paisible, qui réjouirait mon esprit plus que des richesses. Mais ici je suis fixé, ici mon poste est établi, par celui dont la volonté est souveraine sur la mienne, mon travail et mon service militent encore, et j'en bénis mon Dieu, je ne m'en plains point. Oh, que mon esprit prenne toujours plaisir à ce qui est le plus agréable à ses yeux. Thomas Elwood. 2 et quiquincta guberna est si le Seigneur ne garde la ville, PS 127 le veilleur veille en vain, l'adversaire y entrera furtivement, et on aura peine à l'en faire sortir. Tant ses stratagèmes sont soigneusement ourdis, si profonds et si nombreux sont ses artifices, les sentinelles sont par lui trahies, et il trompe même le veilleur. Parfois il arbore les couleurs de la vérité, comme s'il était vraiment un ami, et par ce moyen il entre, avant que sa fausseté n'apparaisse. Et ce qui est pire, il y en a certains au-dedans, qui ont toujours été traîtres, et quand il arrive à la porte, ils sont trop prêts à le laisser entrer, Seigneur. Tu es celui en qui je me confie, de qui dépend ma sécurité, toi seul peux dompter la convoitise, toi seul peux défendre le lieu. Ma faiblesse, Seigneur, je la trouve chaque jour, toi seul est suffisant, c'est pourquoi je t'ai remis le soin et la garde de mon cœur. Sois-y commandant en chef, place la garde, établis le veilleur, à chaque assaut t'envoie du secours, que Satan ne prenne aucun avantage. Mais l'ennemi en fuite, brise sa force, détruit ses œuvres, déconcerte entièrement ses forces, et remplit mon âme d'une joie durable. Prends aussi des mesures contre ceux qui sont au-dedans, qui voudraient lui livrer le lieu, brûle le terrain qui produit le péché, et fait mourir la nature rebelle. Alors je louerai ton saint nom, et je te chanterai des Alléluia, ma langue et ma plume étendront ta renommée, toi qui es mon Dieu et le roi de Sion. Thomas Elwood, fantaisie cuyant l'amour et la haine passe devant ma fantaisie, il ressemble, je crois, à une lunette d'approche. Si sur les manquements d'autrui il m'arrive parfois de poser les yeux, l'amour prend l'extrémité qui atténue, le contraire est tenu par la haine aux yeux louches. Mais si d'un autre côté, j'ai l'esprit à considérer les actions de ceux qui me sont bons, l'amour présente aussitôt à mon regard cette lunette qui grossit leur bon office. La haine aussi serait tout aussi empressée, si elle le pouvait, à placer sa lunette partielle devant ma vue. Mais je suis la d'elle, car je sais qu'elle est l'ennemi mortel de tout bien. La lunette de l'amour est de loin la meilleure. Pourtant beaucoup choisissent de regarder à travers celle qui abuse le plus la vue. Thomas Elwood, toute est vanité, voit ici l'état de l'homme comme dans un miroir, et comment la mode de ce monde passe. Les uns dépensent la plus longue journée à la taverne, tandis que d'autres dissipent le temps à fauconner, chasser. Ici l'un fait la cour à sa maîtresse, un autre danse, un troisième excite la luxure par des regards lascifs. Celui-ci gaspille le jour à s'habiller, celle-là cherche à mettre des couleurs fraîches sur ses joues flétries, afin que, quand le soleil décline, quelque élégant galant puisse l'amener au jardin du printemps ou au parc. Certains fréquentent les pièces et les bals, d'autres, leur jeunesse ils la consument au dé, d'autres jouent aux boules. Aux cartes certains sont entièrement captivés, aux jeux de table d'autres peuvent à peine épargner une heure. L'un asservi son oreille à la musique douce, au jeu de palais un autre passe l'année. Le pôle mâle, celui-ci le tient pour l'unique sport, celui-là garde une raquette au cours de tennis. Certains forcent leurs yeux et leur gorge à chanter, tandis que d'autres se meurtrissent les mains et le dos à sonner les cloches. Une autre sorte, l'œil avide, attend soit au combat de coq, soit à quelque grand appâtage de taureau. Celui-ci raffole des chevaux de course, l'autre sot n'est jamais bien qu'à l'école d'escrime. La lutte et le football, le jeu de quilles, le jeu du prisonnier, parmi les rustres des campagnes, chacun trouve sa place. Et même Jeanne, non lavée, laisse son seau aller pour danser au mât de mai ou à une fête de la Pentecôte. Ainsi la plupart se vautrent dans le plaisir des sens, comme si leur jour ne devait jamais avoir de nuit, jusqu'à ce que le pâle sergent de la nature les surprenne, et comme l'arbre tombe, ainsi il reste. Maintenant regarde chez toi, toi qui lis ces lignes, vois lequel de tous ces chemins tu parcours toi-même, et avant qu'il ne soit trop tard, abandonne ce chemin, qui, suivi, te rendra misérable. Après avoir ainsi énuméré quelques-unes des nombreuses vanités dans lesquelles la plupart des hommes perdaient leur temps, je chantai l'ode suivante à la louange de la vertu. Richesse, beauté, plaisir, honneur, adieu à vous tous, j'estime la vertu bien, bien plus que vous. Vous n'êtes que des jouets pour filles et garçons avec lesquels jouer, au mieux des joies trompeuses. Elle vit pour toujours, vous, vous êtes passagers, son honneur est sans tache, mais votre gloire n'est que tromperie, un appâpin, suspendu pour ceux qui s'assoient à la porte de la folie. La vraie paix, le contentement et la joie l'accompagnent, vous, au contraire, vous employez vos forces à brouiller les yeux des hommes par des fanfreluches, que les sots embrassent, mais que les sages méprisent, l'origine de l'amour. Et l'amour est un rejeton taillé dans l'arbre de la vertu, et greffé sur le tronc de la pureté, planté d'abord dans le plus choisi des sols de la nature, avant que le démon ne gâta la beauté de la nature, mais l'a transplanté dans un terrain plus riche, qu'on ne saurait trouver dans tout le domaine d'âme nature, où bien fumé il enfonce ses racines profondément vers le bas, et lance ses branches vers le haut. La sève qui maintient ce noble arbre est la sympathie, elle coule comme dans une veine à travers chaque branche, la faisant d'abord beau. Il n'est pas stérile, mais porte beaucoup de fruits, très agréables au goût et très beaux à la vue. Un fruit sain et substantiel, capable de supporter les gelées les plus vives, et de demeurer pourtant pur, et pour que vous admiriez davantage ce fruit, sachez que je l'appelle désir chaste. Thomas Elwood, définition de l'amour, elle auteur, pressé d'exposer sa pensée, de ce qui est vrai amour et de ce qui ne l'est pas, la définit ici. Je n'appelle pas vrai amour celui qui peut admettre des chaleurs et des froideurs, comme des accès de fièvre, ces rivières qui, débordant leurs rives, montrent en quelques heures leur livide. Ce n'est pas vrai amour, celui qui est fondé sur la richesse, ou qui a le moindre égard pour l'intérêt mondain, car un tel homme, pour atteindre son but, prostituerait sa propre femme pour du gain. Et il ne peut avoir place parmi les vrais amants, celui dont l'amour dépend d'un joli visage, que l'âge ou la maladie ayant une fois défiguré, la base même de son amour est rasée. Et puisque cette chose sordide, l'intérêt personnel, est capable de souiller le sein le plus chaste, si on ne l'en empêche, je déclare donc qu'il est incompatible avec le vrai amour. De tels signes, je pourrais en ajouter bien d'autres, comme des tours de guet, tendant à avertir d'avance les joyeux mais jeunes marins inexpérimentés, avant qu'ils ne brisent leur vaisseau sur les rochers de la folie. Mais pour ce thème, que ceci suffise, tandis que moi, lassé du sujet, j'emprunte des ailes et m'envole vers une sphère plus haute, où je puis voir cet amour dont l'épithète la plus choisie est vraie. Cet amour-là, je l'appelle amour, cet amour seul j'appelle, dont la naissance paraît être céleste. Cela et cela seulement, je tiens pour vrai amour, qui se meut dans la sphère de la chasteté. Est un vrai amant, non pas celui qui peut vaincre des monstres et des géants pour l'amour de sa maîtresse, et soupire peut-être et pleure, non sans peine, de peur qu'elle ne rende quelque autre heureux, mais celui qui préfère à ce point son bonheur au sien propre, qu'il peut se contenter de sacrifier le sien pour acheter le sien, même au prix de son propre bannissement. Un amant de tout son cœur se consacre tout entier à rendre heureuse celle qu'il aime, et s'emploie de toutes ses forces à promouvoir son bien, même si cela détruit ses espérances. Celui qui aime vraiment aime à tel point, quoi qu'en disent les libertins, qu'il serait content, oui, joyeux de voir sa maîtresse bénir la couche de quelqu'un de plus digne. Et le vrai amour ne peut jamais se tourner en haine, même s'il ne devait jamais être accepté, mais comme une lampe brûlerait clairement jusqu'à la fin, et manifesterait ainsi une noble âme. De tels mouvements amoureux, concluons-nous donc, si spécieusement qu'ils soient parés, ne procèdent pas du vrai amour, mais d'une luxure immonde, que tout saint chaste devrait s'appliquer à rejeter. Thomas Elwood, avertissement de l'amour, et si la vertu pousse un homme à aimer, comment pourrait-il alors refuser? Si la nature pousse à moins qu'il n'éprouve, comment sait-il ce qu'il doit choisir? L'apparence du vice pour celle de la vertu est prise par main cœur honnête, qui se croit en sûreté jusqu'à ce qu'il sente son aiguillon mortel, et alors, trop tard, il crie, ô mon sort. Fut-il jamais chagrin pareil au mien? Je pensais que mon amour venait d'en haut, et qu'il était divin, mais maintenant je trouve avec un deuil au cœur qu'il venait de la terre, et que le fruit qui y pousse n'est que chagrin et honte. Ainsi les hommes honnêtes sont, de temps à autre, trompés par l'appât de la beauté, qui les fait choisir le plaisir, et perdre un état bien plus heureux. Et l'homme ne peut être du danger exempt, qu'autant qu'il demeure dans ce qui veut tuer cette nature, et se tient près de son guide. Ce qui, s'il le fait ainsi, lui montrera l'origine et le fondement de chaque mouvement, afin qu'en ce jour nulle folie ne se trouve en Israël. Tel est le cri de celui dont l'œil a été trop prompt à s'égarer, qui n'aurait pu tenir si la main de Dieu ne le soutenait jour après jour. Thomas Elwood, intégrité, c'est ni la richesse, ni l'intérêt du monde, qui pouvait capturer mon affection, je ne suis pas assez ami de moi-même pour souffrir pour cela. Ce ne sont pas les traits d'un visage qui pouvaient captiver mes yeux, j'ai vu une grâce des plus douces, et pourtant j'ai gardé ma liberté. Qu'était-ce donc, cœur ferme, je te prie, qui t'a incliné à aimer, peux-tu sans présomption dire que c'était une puissance divine? Je pourrais en dire beaucoup si besoin était en faveur de mon amour, mais je choisis plutôt de me retirer et de le laisser se justifier lui-même. Thomas Elwood, une perspective c'était vers le soir du jour, quand les livres restent immobiles et que les écoliers jouent, qu'ayant obtenu une heure de loisir, je sortis prendre l'air, à quoi les cieux invitaient, par des sourires qui promettaient du plaisir. Je fis ma promenade sur une berge qui bordait un ruisseau dont les flots de cristal glissaient si doucement, comme s'ils craignaient d'être aperçus, si ce n'est qu'un caillou, ça et là, murmuraient leur fuite à mon oreille. De là, je résolus de contempler la nature dans sa plus riche teinte, et je ne tiendrai pas mon effort pour perdu de voir semblable spectacle à double prix. Les oiseaux, en notes diverses, chantaient un panégyrique au printemps. Panégyrique, attention aux détails, chacun, je crois, s'efforçait de faire de son mieux, mais Philomèle surpassait tous les autres. Philomèle, un rossignol, les arbres servaient d'écran d'ombre drapés de dais de verdure, et certains étaient ça et là incrustés de fleurs, aux frais de dame nature, avec lesquels jouait un doux zéphyr, faisant de jolis murmures sifflants. Quelque côté que je tournasse les yeux, je voyais une variété bien mêlée. La tapisserie finement ouvragée du champ offrait un joli paysage. Ici le blé, la lorge apparaissaient certains en herbe, d'autres en épi, les poires en boutons, et les fèves en fleurs attendaient une douce averse. Craignant cela, l'abeille rentre en hâte, les cuisses chargées de miel. Les prés, dans leurs vêtements verts d'herbe, me parurent fort proprement vêtus, non seulement propres, mais richement pourvus de fleurs bigarrées finement ouvragées, primes verts et violettes entremêlées, et des marguerites en touffes jetées entre, chaque objet touchait ma vue d'une douce et innocente délectation. Mais m'y arrêtai-je ? Oh non, mon cœur criait toujours. Donne-moi la meilleure part, laisse-moi vivre à jamais avec celui qui donne l'être à ces choses. Les choses extérieures peuvent plaire à chaque sens, et être goûtées sans offense, mais rien sinon une puissance divine ne peut faire que leur vertu soit vraiment mienne. Infuse donc ainsi ta sagesse dans mon cœur, afin que je puisse user de tes créatures comme il convient, et toujours te rendre la louange, à toi à qui la plus haute louange est due, au Dieu très saint, juste et vrai. Thomas Elwood sur ses chers amis décédés, Isaac et Mary Pennington, dès et puis qu'ils furent faits un, comme un ils vécurent ensemble, d'un seul cœur et d'une seule pensée, un en chair et en esprit, jusqu'à ce que la mort en partie séparât cette unité, en le prenant et en la laissant seule, pour pleurer en silence son absence. Lui étant partie, elle ne put longtemps survivre, mais dès sa mort elle commença à mourir chaque jour, et semblait plutôt être en vie qu'elle ne l'était, inquiète, jusqu'à ce qu'elle vînt se coucher à ses côtés, son esprit uni de nouveau au sien, là-haut. Ainsi la mort, par qui le coup de séparation fut porté, les réunit encore sur la terre et dans le ciel. Thomas Elwood en mémoire de mon amie Mary Pennington. Et le 18e jour de septembre, en 1682, la mort emporta une dame vertueuse qui laissa peu de ses égales, elle était veuve, mais maintenant elle est partie rejoindre Springett et Pennington. Pour ses qualités personnelles, elle était à juste titre peu surpassée, mais celle où elle excellait le plus étaient les qualités de l'esprit. Ma plume, je le crains, ferait tort à sa valeur si j'essayais de les exposer. Je m'abstiens donc délibérément de chercher des mots pour dire sa louange. Je sais que ce serait peine inutile, sa renommée, nul mot ne peut l'élever plus haut, que d'autres chantent sa valeur, tandis que moi j'honore et j'aime sa mémoire. Thomas Elwood exercice. Ahache-moi, combien cette coupe est amère à boire, comme je tremble quand j'y pense. Assurément, combattre des tigres, ou réveiller de vieux lions affamés, serait moins périlleux, oui, je croirais faire un heureux échange, rencontrer un ours que la faim fait rôder. Ou rencontrer un dragon féroce dont la peau écailleuse n'a jamais été percée par aucune épée. Mais quoi, hésiterais-je, tarderais-je encore, semblais-je douter encore de devoir obéir, ou me montrer rebelle, qu'aucune pensée aussi souillante ne soit introduite dans mon sein encore sans tache. Pourquoi m'arrêter, pourquoi m'abstenir d'avancer? Le succès couronne l'action, les délais n'engendrent que le danger, et la force, dans la faiblesse, trouve la fidélité, quand la paresse est souvent laissée derrière. Thomas Elwood, les brebis bêlantes, ou la plainte du troupeau au sujet de ses bergers. Malheur aux bergers d'Israël qui se pestent eux-mêmes, vous ne faites pas paître le troupeau, mais vous l'avez gouverné avec force et cruauté. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, voici, je suis contre les bergers, je redemanderai mon troupeau de leurs mains. Ésaïe 34. Dès en les temps anciens, avant que les bergers ne fussent si grands, si hauts, si seigneuriaux, si devenus ambitieux, longtemps avant que fût connu le siège pontifical, dont le monde a été si tourmenté. Avant que l'on entendît cette voix dont les récits disent qu'elle fut prononcée du ciel par une langue d'ange, du poison est versé aujourd'hui dans l'Église lorsque Constantin jeta ses grands revenus parmi les bergers aux bouches béantes, l'abondance de richesses les avait rendus orgueilleux et paresseux, bien avant cela, tandis qu'ils tenaient leur conventicule en cachette, et se réjouissaient lorsque, par bonheur, ils pouvaient échapper aux délateurs. Que le métier de berger était honorable en ces temps bénis, combien désirable, lorsque nul ne cherchait son avantage sur le troupeau, lorsque nul n'aspirait à une domination seigneuriale. Ne cherchant pas les leurs, mais eux, se contentant de vivre et d'y vivre bien, car là était la bénédiction du lait que les brebis donnaient librement, ainsi les bergers étaient nourris, sans que les brebis fussent opprimées. Et cependant le troupeau laineux n'était pas ingrat, mais témoignait une juste considération pour les peines de son pasteur, de bon cœur, il partageait toute chose bonne qui soutient la vie humaine. Dans une douce communion, ils cheminaient ainsi ensemble, et trouvaient l'un en l'autre un réconfort mutuel, ce qui était chagrin pour l'un l'était pour l'autre, et ce qui réjouissait l'un rendait l'autre heureux. Les bergers n'épargnaient aucune peine pour les brebis, mais travaillaient, veillaient et priaient pour leur sûreté. Les brebis avaient conscience du soin des bergers et leur rendaient l'obéissance due, et bergers comme brebis avaient pour but, en tout ce qu'ils entreprenaient de cœur et de langue, de magnifier le nom du souverain berger, auquel appartenaient à la fois brebis et bergers. Ainsi en allait-il au matin de ce jour qui, depuis longtemps, avait percé sur le monde païen, et ainsi cela se maintint tant que la simple vérité régna, comme en témoignent récits sacrés et profanes. Mais hélas, que ce jour dura peu, et combien vite cette glorieuse lumière fut éclipsée, que sa clarté fut promptement voilée, et ensevelie dans la tombe d'une nuit sombre. Perte jamais assez déplorée, ruine d'un état si excellent, par quel moyen funeste elle advint, ma muse va le raconter dans les vers qui suivent. Bénéficiant d'un temps paisible, le troupeau fécond devint nombreux, gras et revêtu de belles toisons, après avoir subi maints assauts de loups, d'ours, de tigres et de chiens enragés. Enrichi d'abondance par la main généreuse du grand berger, dont le soin indulge envers son troupeau déployait ses trésors et préparait pour ses brebis toutes choses bonnes. Le troupeau reconnaissant, ainsi établi dans la quiétude, et ayant désormais bonne réserve de richesses mondaines, se souvint, avec un cœur justement attentif, des souffrances autrefois endurées par ses pasteurs. La main ouverte et le cœur élargi, telle est la nature d'un esprit généreux, ils partagèrent leurs richesses avec leurs pasteurs, chacun s'efforçant de surpasser les autres. Nul ne pensa donner assez, tous s'appliquaient à trouver comment exprimer leur amour à leur berger, chacun semblait rivaliser pour savoir qui doterait l'Église le plus largement des biens qu'il possédait. Ils continuèrent ainsi quelque temps, mais bientôt, la colle de l'or se mit à tenir aux doigts pastoraux. Le pouvoir d'attraction des richesses était si fort qu'il les arracha à leurs honnêtes labeurs. Le fabuliste phrygien nous parle d'une poule qui ajoutait chaque jour un œuf au tas, jusqu'à ce que sa maîtresse la gorga, et alors, devenue si grasse, elle ne pondit plus. Ainsi en fut-il de ces anciens bergers, tant qu'ils menèrent une vie frugale et tempérée, ils n'épargnèrent ni soin ni peine pour leurs troupeaux, quel dommage qu'ils aient jamais été surnourris. Car après cela, par un amour trop indulge et un zèle mal avisé, les brebis à la belle toison amassèrent sur leurs bergers, qui avaient appris à tirer parti de leur générosité des richesses inutiles. Les bergers qui, à ce moment-là, étaient devenus, non pas meilleurs, mais plus avides qu'auparavant, plus ils nageaient dans une abondance superflue, plus ils manquaient de tout et plus ils en voulaient encore. Les brebis, guidées par une dévotion aveugle, donnaient toujours, espérant enfin remplir la bouche des bergers, ne se laissant guère à elles-mêmes de quoi vivre, et pourtant les bergers béants réclamaient encore. Enfin les bergers, ayant surpris quelques-uns des principaux béliers meneurs dans quelques graves offenses, leur arrachèrent, sous prétexte que de larges dons expiraient la faute de grandes dotations. Par divers artifices, les bergers rusés obtinrent des brebis étourdies toujours davantage, et ce qui d'abord était don, ils l'appellent désormais dette, les brebis doivent maintenant payer ce qu'elles avaient donné auparavant. Rassasiés, les bergers devinrent vite oisifs. Ils se livrèrent à une molle volupté, retirèrent au troupeau l'assistance qui lui était due, et s'appliquèrent surtout à se plaire à eux-mêmes. Alors la discorde s'éleva entre eux sur la manière de se partager leurs richesses mal acquises, ils ne parvenaient pas à s'accorder, sinon sur ce point, que tous, d'un même cœur, le troupeau devait être tondu. Ils se répartirent donc en cercles, certains petits, d'autres grands, certains bas, d'autres trop élevés, et afin que le modèle durât mieux, ils donnèrent à leur plan le nom de hiérarchie. Les orbes supérieurs furent pris par les bergers les plus robustes, qui s'en emparèrent comme de leurs propres biens, s'y ménageant de belles provisions pour eux-mêmes, et laissant les cercles inférieurs aux moindres. Ces sous-bergers, serviteurs des autres, ainsi laissés à se disputer ce que les autres leur laissaient, chacun taillait pour soi comme il l'entendait, partageant ainsi quoiqu'inégalement leur larcin. À ceux-ci, les maîtres bergers confièrent le troupeau, qui auparavant était leur souci commun, ils ne le nourrissaient qu'une ou deux fois par semaine, et encore d'une pitance sèche et pauvre. Les maîtres bergers, ayant ainsi délégué à leurs compagnons la part laborieuse, résolurent de ne s'occuper que de satisfaire leurs penchants et de rassasier leur cœur de plaisirs délicats. Ils bâtissent des palais et de hauts sièges, où ils vivent dans l'éclat le plus resplendissant, pourvus de tout ce que le plaisir peut offrir au sens voluptueux et captiver la nature. L'ambition règne désormais, gonflée d'orgueil et de pompe ostentatoire, ils lâchent les rênes, vont dehors en carrosse à six, suivis d'un grand et splendide cortège. Parmi les principaux porteurs, ils réclament la préséance, dans les assemblées solennelles, on les place au-dessus des autres, la plupart d'entre eux, condescendants de nature mais de nom, deux d'entre eux toujours sont honorés du titre de patronisés. Ils affectionnent avec ambition de haut titre, signe assuré d'une arrogance et d'un orgueil odieux, et s'attendent à être appelés « Monseigneur, Votre Grâce », ce dont les brebis avisées se moquent. Une brebis ordinaire, se trouvant par hasard à l'endroit où elle entendit un sous-berger dire sans cesse à l'un d'eux, « Plaît à votre grâce », lui souhaita plus de grâce dans le cœur, mais moins dans le titre, pourtant le simple nom de seigneurie ne leur suffit pas, ils aiment la seigneurie et veulent la domination, tant sur les brebis que sur les sous-bergers, qui doivent mendier la grâce aux mains de leur grâce. Les sous-bergers leur paient tribut, ce qui les maintient dans une condition pauvre et les pousse, avec une faim plus âpre, à s'attaquer aux brebis inoffensives, pauvres et sans défense, en quoi les maîtres bergers les soutiennent non seulement de leur faveur, mais de leur puissance, afin que, grâce à l'assistance de la cour des bergers, ils puissent dévorer les brebis et tout ce qu'elles ont. Et ils ont trouvé tant de manières d'arracher, verrou après verrou, aux brebis abusées, qu'ils leur laissent à peine assez de laine pour les préserver des coups de la pauvreté. Outre l'impôt général qu'ils leur imposent, par lequel ils déciment le troupeau chaque année, pour chaque petite réjouissance, ils leur font payer, et souvent à un prix exorbitant. Un bélier et une brebis ne peuvent s'unir par le rite nuptial sans qu'il y ait présent quelqu'un d'entre eux, qui leur récite les paroles d'épousailles, pour lesquelles ils réclament une redevance. Et lorsque la brebis pleine met bas son agneau, le berger obtient encore une autre mèche de laine, en leur disant que désormais la brebis est pure et peut être remise parmi le troupeau. Certains rites doivent aussi être accomplis pour donner à l'agneau l'entrée dans la bergerie, pourquoi le berger réclame encore une redevance, et ainsi les brebis, vieilles comme jeunes, sont tondues. Quand une brebis meurt, le berger doit dire un chant funèbre sur le cadavre lorsqu'on le porte à la tombe, pourquoi il s'assure d'avoir sa redevance et le droit mortuaire, si la brebis a laissé quelque chose. Ainsi les bergers oppriment les pauvres brebis et les dépouillent par des exactions de toutes parts, et les brebis ne peuvent espérer trouver réparation tant qu'elles doivent se soumettre au jugement des oppresseurs, car c'est dans les cours des bergers que ces causes sont jugées, si quelques brebis hardies refusent de payer, là où les bergers, ou leurs créatures, président toujours, traitant ces brebis comme le Christ fut traité par les Juifs. Car après les avoir condamnés, à tort ou à raison, on les livre au pouvoir séculier pour être jetés en prison parmi une foule de criminels et dans certains pays brûlés. Tels sont les cours que les brebis doivent tolérer de la part de bergers qui les maltraitent cruellement, dureté qui les contraignent à se plaindre et à répandre leur douleur dans un bêlement plaintif. Qui peut, sans indignation, entendre comment les bergers tiennent les brebis en servitude, qui peut s'empêcher de verser des flots de larmes aux lamentations des brebis bêlantes. Thomas Elwood Floralia, commentaire de l'éditeur du site, « J'ai toujours compris que les rites printaniers du mois de mai étaient un rituel de désir et de libération de la frustration de l'hiver disparu, mais je ne savais pas que l'origine venait d'une riche prostituée de Rome. » À l'époque d'Elwood et de Fox, outre les jeux de débauche ivre, le mât portait aussi une statue du roi placée au sommet, de sorte que tout le monde dansait autour du roi comme dans une forme de culte idolâtre, contre lequel Fox témoigna avec sérieux, ou récit de l'origine des jeux de mai et des mâts de mai. Et lorsque Rome était entièrement païenne, bien avant que le sein de la Vierge portât notre Sauveur béni, il vivait à Rome une dame des plus lascives, une courtisane notoire, du nom de Flora, qui, se prostituant pour de l'argent, acquit grande richesse avec grande infamie. Cette vile putain, lorsqu'elle vint à mourir, légua ses trésors au trésor public de Rome, car elle fit du peuple romain son héritier de ce qu'elle avait gagné par son commerce vénérien. Et afin que sa mémoire demeurât parmi eux, elle pourvut par son testament à ce que, le jour de son anniversaire, certains jeux débauchés fussent célébrés par les dames romaines, et pour qu'elles ne s'en dispensassent pas par souci de la dépense, elle y affecta une part de sa fortune. Un legs si important, quelle qu'en fût l'origine, le Sénat romain jugea qu'il ne méritait pas d'être condamné, Toutefois, pour que la tâche ignoble de sa vie débauchée ne demeurât pas trop longtemps une souillure pour eux, ils imaginèrent un moyen, enterrer la prostituée et faire vivre Flora. Ils la feignirent déesse, l'ayant divinisée, ils la mirent à présider aux fruits et aux fleurs, ils lui élevèrent des autels, et par décret, établirent les rites de sa solennité. Le peuple, à l'âge suivant, adore celle que ses pères savaient être une putain, et, plongé dans une obscurité superstitieuse, il craint de n'avoir ni fleurs ni fruits cette année-là s'il s'abstient de célébrer ses fêtes. Pourtant, comme la meilleure part conservait encore le sentiment de la manière dont elle avait acquis sa divinité, ceux qui avaient égard à leur honneur préféraient risquer cela plutôt que de lui rendre hommage. Mais toutes les filles publiques de la ville, et ceux qui avaient peu de réputation ou de pudeur, accoururent en foule à ses autels et dansèrent en rond, certaines nues, d'autres vêtues de robes bigarrées, la tête couronnée de guirlandes de fleurs. Elles n'épargnaient pas le vin, mais le buvaient à longs traits dans des coupes pleines, et riaient des plaisanteries bouffonnes les unes des autres. Toutes retenues étaient entièrement lâchées, et celles qu'on tenait pour les meilleures étaient celles qui savaient lancer la plaisanterie la plus grossière. On employait des torches pour faire entendre que la nuit avait été le temps du principal plaisir de Flora, et pour marquer combien elle avait été lubrique, la chèvre et le lièvre figuraient dans ses jeux, ainsi célébrait-on chèrement son jour, dans le calendrier du mois appelé mai. Ainsi en allait-il tant que régna la superstition païenne, avant que la lumière de l'Évangile ne prît empire sur les ténèbres païennes, mais lorsqu'enfin le jour illustre du Christ se leva, ses vapeurs immondes se dissipèrent, la lumière de l'Évangile chassa totalement ces ténèbres et cœurs chrétiens, et les défenseurs de ces jeux de mai aujourd'hui ne peuvent montrer, parmi les anciens chrétiens, même à Rome, d'où ces rites païens vinrent d'abord, aucune trace de tel divertissement débauché. Mais après cela, par les ruses de Satan, lorsque les hommes retombèrent de la vérité dans l'erreur, après que la puissance de la piété eut été perdue et que des chrétiens formalistes se vantèrent de davantage de formes, lorsque Rome chrétienne devint à certains égards trois fois pire que Rome païenne, alors pour corrompre les nations, on remit en vogue certains rites païens autrefois condamnés comme vains, parmi eux les jeux de mai avec des variations, selon ce qui convenait le mieux à l'humeur de chaque nation. Comment on les pratiquait jadis dans cette île, c'est ce qui va être raconté ensuite. Le jour de l'anniversaire de Flora, on dresse un long mât sur les places de marché ou au carrefour, un mât peint sur lequel pendent, exposées de fines guirlandes faites des plus belles fleurs, au sommet, on place une girouette, emblème de ce qui encourage ces divertissements. Vers ce mât court la classe la plus débridée, et ils passent leur temps en jeux qu'ils font perdre. Le violon ou la cornemuse les appellent, et viennent en tête ceux qui ont le moins de valeur. Ici, vieux et jeunes des deux sexes se rencontrent et se saluent en se lançant des propos obscènes. Autour de l'arbre, ils dansent en désordre, comme des enfants qui bondissent sur leurs chevaux de bois. Confusément, ils se mêlent en bande et couvrent le violon de leurs cris assourdissants. L'un lance une plaisanterie graveleuse à laquelle toute la populace répond. La liberté, qu'ils prennent alors d'accabler de moqueries et de plaisanteries les passants, est passée en proverbe. On dit d'un tel qu'on l'a fait passer pour un simple jeu de mai, car dans ces bandes de réjouissance, ils favorisent tout ce qui tente à accroître la profanation. Et ce ne sont pas des festins secs. Flora prétend protéger la vigne et envoyer des réserves d'orge. Et donc, à coup sûr, ces dévots ne manqueront pas ce jour-là de tremper leur cerveau dans le vin ou la bière. Dans des coupes de verre pleins à ras-bord, ils s'en remplissent, et les genoux nus fléchis, ils boivent des santés. La santé qu'ils boivent est peut-être celle de quelques grands seigneurs, dont les bois bien garnis ont fourni leur mât de mai. L'honneur de ce seigneur, sans doute, se serait élevé plus haut s'il l'avait donné aux pauvres pour le feu. Les protecteurs des mâts de mai, s'ils le veulent, peuvent voir l'origine de leur vanité. Oui, tous peuvent contempler l'origine des jeux de mai, eux qui les défendent avec tant d'ardeur et d'audace. C'est la fête de Flora, une prostituée sans honte. L'institution vient des Romains, mais eux étaient païens. Qu'avons-nous à voir avec cela, nous qui nous vantons d'une naissance plus noble, d'une lignée plus élevée? Aux Britanniques, visez plus haut, ne ternissez pas par des rites païens le nom chrétien. Thomas Elwood, d'une épître à un ami, via recta ad vitam bitam. Vous qui voudriez mener une vie heureuse ici-bas et jouir ensuite du repos, suivez le chemin de la vertu, où nul n'a jamais marché sans bénédiction, afin que vous ne vous en écartiez pas, votre ami vous recommande les règles suivantes. Que votre pensée la plus matinale, le premier fruit de votre cœur éveillé, soit chaque matin d'une portée au Seigneur et offert comme une part sanctifiée. À lui sont dues vos actions de grâce, à lui qui a gardé votre âme en sûreté pendant votre sommeil. Ce tribut payé, levez-vous et habillez-vous, et que votre tenue soit modeste, ni trop brillante ni trop coûteuse, et libre de modes fantasques. Je pense que le vêtement le plus accompli est celui qui, sans affectation, est soigné. Une fois habillé, retirez-vous et attendez de sentir s'élever en vous une sainte inspiration, avec de forts désirs vers Dieu, afin qu'il vous bénisse dans les exercices de ce jour. Heureux est la course qui a des chances d'être bien menée, lorsqu'elle commence par une prière sainte. L'assistance divine ainsi implorée, vaquez à vos affaires, tant que Dieu vous accorde le temps et la force, afin de les achever entièrement. Tout bien que votre main trouve à faire, accomplissez-le d'un esprit joyeux. Fuyez par tous moyens une vie oisive, quels que soient vos revenus, des milliers s'y sont ruinés, car c'est le piège le plus sûr du diable. Fuyez la paresse sensuelle, et trouvez toujours de l'ouvrage pour votre corps ou votre esprit. Ne mangez pas trop richement, et ne soyez pas délicat à complaire à votre appétit. Les choses simples s'accordent le mieux avec la nature, trop de richesse et d'abondance la détruisent tout à fait. Que la tempérance, sans plus de façon, soit votre sommelier, votre cuisinier et votre trancheur. Mais usez surtout de modération en buvant, gardez-vous des boissons fortes, refusez les coupes répétées, et ne prenez pas plus que de besoin, qui se surcharge de vin fait de l'homme que Dieu a créé un homme, un porc. Ne soyez en aucune manière esclave de la pipe, car nul autre que le diable ne se nourrirait de fumée, puisque Dieu a voulu vous faire libre, ne retombez jamais en servitude d'une herbe. Il visait juste, celui qui déclara que tout excès se trouvait dans l'ivrognerie. Dans toutes vos affaires, pratiquez la simplicité, contentez-vous de gains honnêtes, n'abusez pas de la faiblesse d'autrui, et n'employez pas de belles paroles pour tromper, qui amasse richesse par fraude et ruse amasse en même temps la colère sur lui-même. Soyez compatissant envers les pauvres, prenez en pitié les nécessiteux, soulagez l'affamé avec vos ressources, pourvoyez à l'orphelin, qui dépense librement pour les pauvres prêts à Dieu, qui le lui rend bien. Pour les veuves, les orphelins, et ceux qui ne peuvent se défendre eux-mêmes, lorsque la force ou la fraude les opprime, plaidez leur cause et tenez-vous leur ami. Ceux qui protègent l'impuissant contre l'injustice peuvent attendre de Dieu qu'il les aide eux-mêmes. Attachez-vous fermement à la justice, sans égard pour ami ou ennemi. Que ni la flatterie ni la crainte ne vous fassent agir contre votre jugement, demeurez impartial, que rien ne prévaille, sinon le droit seul, pour faire pencher la balance. Méfiez-vous de l'orgueil et de la grandeur, du regard hautain et de l'œil méprisant, fuyez la vaine gloire, abstenez-vous de l'autolouange, évitez toute forfanterie et toute ambition, car de tous les fous, je n'hésiterai pas à prononcer que le pire est le sot plein de lui-même. Soyez hospitaliers, que votre porte soit ouverte sans réserve aux étrangers, et si leurs besoins implorent votre aide, renvoyez-les la main généreuse, certains, en recevant un hôte inconnu, ont été bénis de la compagnie des anges. Vivez en paix parmi vos voisins, fuyez les occasions de querelle, employez tous moyens justes pour faire cesser les disputes, partout où vous les voyez commencer, vous souvenant de celui qui a dit « Bienheureux seront ceux qui ont fait la paix ». En amitié, soyez constants et fidèles, tenez-vous auprès de votre ami dans le danger, ne l'abandonnez pas quoi qu'il arrive, mais pour lui osez même mourir, ceux qui sont unis par une vraie amitié n'ont, dans deux corps, qu'un seul esprit. Si vous préférez la vie mariée, qu'un aveugle attachement ne vous guide pas, mais dans le choix d'une épouse, que la saine prudence trouve la fiancée, toutefois, appréciez et aimez avant de prendre ce que vous ne pourrez ensuite rejeter. Après avoir choisi et vous être marié, gardez toujours en mémoire ce que vous avez accordé, soyez fidèle à votre lit conjugal et gardez votre pacte solennel, ceux qui violent les liens nuptiaux font de Dieu et des hommes leurs ennemis. Si vous avez des enfants, domptez de bonne heure leur volonté, avant qu'elles ne deviennent fortes, ne les laissez pas se livrer au mal, de peur de vous faire tort à vous-même et à eux. Ceux qui laissent leurs enfants devenir entêtés s'assurent leur malheur et celui de leurs enfants. Soyez doux envers vos serviteurs, ne régnant pas d'une main rigoureuse, moins vous leur paraîtrez impérieux, plus vous les aurez à votre commandement. On est le mieux servi tout au long de l'année, quand on est servi davantage par amour que par crainte. Soyez aimables et bienveillants envers tous, non pas revêches et moroses, mais ouverts, par une conduite courtoise, liez les autres à vous aimer, vous respecter et vous honorer. De toutes les voies pour s'élever, la plus sûre est l'humilité. Contenez votre colère, même provoquée, laissez à la patience son œuvre parfaite, par une manière douce, vous pouvez gagner celui qui vous a provoqué, une réponse douce apaise la colère, mais des paroles hâtives augmentent la discorde. Dans toute votre conduite, gardez toujours l'œil sur Dieu, implorez son aide en cela, en lui, en tout et pour tout, mettez votre confiance, adorez-le d'un cœur droit, il faut qu'une bénédiction accompagne celui qui commence et finit avec Dieu. Thomas Elwood, un soliloque, je m'entretiens avec mon propre cœur. PS 7 Sidée, reconnaissantes émotions portent ma voix. Ô prêtez l'oreille, vous qui êtes sacrés, mon Père, mon Dieu et mon ami, soutenez mon chant, tandis que, guidé par la réflexion, je contemple en arrière les années passées au-dessus de ma tête. Autant que ma mémoire fragile peut remonter, j'y trouve des traces de votre amour et de votre grâce. À chaque période de ma vie, je vois votre providence salvatrice et votre clémence. Il n'est guère un jour, au fil de l'année qui tourne, où je ne remarque quelques signes de votre soin. Ce sentiment, profondément imprimé en mon esprit, a humilié mon cœur et rendu mon âme résignée. Il m'a souvent engagé à crier, le genou fléchi, attirez-moi, ô Dieu. Et je courrai après vous. Et si vous daignez m'accorder le nécessaire, vos lois seront vénérées tant que je vivrai, et quand je mourrai, admis auprès de votre trône, ma gratitude se montrera en louanges sans fin. Mais c'est à votre miséricorde que je dois toujours me confier, car bien que j'aie fait vœu, je me suis pourtant écarté, j'ai enfreint vos lois, j'ai peu révéré vos statuts, et la nature première s'est trop manifestée, de sorte que je peux faire cette belle confession, l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Matt 26, 41. C'est pourquoi je vous supplie, que votre grâce soumette chaque passion errante et renouvelle mon cœur, afin que je puisse rendre compte à mes amis, comme le pieux Paul, je suis mort, et pourtant je vis. Et maintenant la vie qui anime cette motte s'appuie sur la foi du cher Fils de Dieu, Galles 2:20 qui, pour moi seul, a foulé le pressoir. Isa 16:10, Thomas Elwood sur le culte est le culte que le ciel couronne d'approbation ne consiste pas en révérence servile ni en son, en cérémonie, ni en coupe d'habits, ni en longue prière toute récitée par cœur. Il ne s'accomplit pas avec un instrument accordé dans des dômes coûteux, des demeures magnifiques, qui frappent les sens et entraînent les affections dans une crainte superstitieuse et sans vie. Mais non réformé, il laisse l'âme aussi pauvre, aussi impuissante et aussi souillée qu'auparavant. Non, le vrai culte est une chose plus noble. L'amour en est l'origine et l'unique source, il s'accomplit en esprit et dans le cœur, par la capacité que Dieu lui-même communique, et il consiste en une vie sainte, en prière, en louange et en une action de grâce sincère. Thomas Elwood, le moniteur intérieur, veut ou n'avait pas besoin de dire, dans des soupirs de l'esprit, ô homme, qui dévoilera le plan mystique de Jéhovah, qui apportera du ciel les pandectes sacrées, afin que nous les entendions et nous conformions à leurs termes, qui se perchera sur la brise matinale et nous les portera de par-delà les mers, ou qui descendra dans l'abîme sans mesure et les ira chercher là où dorment des eaux terribles. Car dans votre cœur, la parole est écrite divinement, ineffaçable et belle, sans tache, elle parle toute langue sous la voûte du ciel, aussi largement que la lumière à tous elle est donnée. Prêtez attention à cet oracle, obéissez à ses prescriptions, et votre âme vivra. Et vous n'avez pas besoin de dire, avec quoi, hélas, m'approcherai-je de la grande divinité éternelle? Ou comment me prosternerai-je pour attirer son regard? Viendrai-je devant sa présence redoutable avec des veaux d'un an? En une hécatombe entière, des milliers de béliers du pays de Bazan lui plairont-ils? Ou donnerai-je 10 000 ruisseaux d'huile? Mon premier-né sera-t-il offert comme tribut, le fruit de mon corps pour racheter l'âme coupable? Non, rien de cela ne réjouira Jéhovah, votre cœur est conscient de ce qui est juste. La règle est courte, soyez miséricordieux, soyez juste, et placez humblement votre confiance en votre Créateur. Thomas Elwood, un hymne QLMO, Jéhovah, choisirai-je pour vous exprimer mes remerciements? Quelle posture révérencieuse adopter, face contre terre ou à genoux? Les formes extérieures peuvent sembler dévotes, et pourtant n'obtenir aucune acceptation, ni tout l'apparat des mots, sans un esprit correspondant. Le cœur est un index, lisez-moi là, voyez-y gratitude et louange, pour le nécessaire, une conscience claire, la santé et de longs jours, pour un véritable ami, une nombreuse descendance, et plus cher encore, pour l'amour qui a acquitté mes dettes et fait descendre du ciel votre volonté, moi ainsi hautement béni, ô Dieu. Demeurerai-je désobéissant, ou ferai-je des vérités révélées un sujet de plaisanterie, et aimerai-je le raisonnement sceptique, préférerai-je un péché passager, renoncerai-je à vos lois sacrées, et mépriserai-je vos saintes réprimandes intérieures pour gagner les applaudissements du monde? Non, plutôt que ma main oublie de guider la plume docile, que mes yeux soient plongés dans une totale obscurité, que mon cœur laborieux s'arrête. Thomas Elwood, pensée solitaire sur l'incertitude de toutes choses humaines, transib incito, cavo mensura putati, est sur quoi, hélas? Un homme peut-il fonder son cœur sur les choses d'ici-bas, qui, lorsqu'elles semblent plus en état de durer, s'enfuit comme une flèche tirée d'un arc, les choses soumises au sens extérieur sont les plus enclines au changement. Si nous élevons des maisons somptueuses et pensons y prendre plaisir, comme soudain nous sommes arrêtés, et tous nos espoirs rendus entièrement vains. Une petite étincelle réduit en cendres ce que nous bâtissions depuis la moitié de nos jours. Si nous jetons l'œil sur des domaines et y attendons du plaisir, un souffle secret de la Providence apporte la déception à notre esprit. Celui qui est au sommet aujourd'hui peut bientôt sentir le mouvement circulaire de la roue. Si nous embrassons nos tendres petits et espérons trouver en eux notre consolation, hélas, en combien peu de temps l'espérance est-elle ensevelie avec eux dans la tombe, tout ce qui promet du contentement nous est arraché en un instant. N'y a-t-il donc rien de sûr sur quoi l'homme puisse fixer son cœur, rien qui dure toujours quand toutes ces choses passagères auront disparu? Triste état où l'homme, accablé de chagrin, ne trouve rien où son esprit puisse se reposer. Aussi, il y a un Dieu au-dessus, qui est aussi proche des hommes, dont l'amour immuable nous peut servir d'appui avec confiance. Aucune déception ne peut atteindre celui qui se confie en celui qui est tout en tout. Si nous nous réjouissons en lui par-dessus tout, et trouvons plaisir en ses préceptes, nous serons assurés d'agir droitement. Ce n'est pas sa nature d'abandonner. lui seul est un objet convenable sur lequel l'homme doit placer son cœur, Thomas Elwood au sein des lieux éternels. Conservateur de tous ceux, sans exception de personne ni de rang qui, dans votre fidélité, placent leur confiance et ne mettent leur assurance qu'en vous, soyez mon secours, car vous savez que c'est dans votre protection, Seigneur, que seul je me confie. Entourez-moi, Père, de votre puissance, soutenez-moi chaque jour par votre bras saint, conservez-moi fidèle à l'heure mauvaise, étendez votre main pour me sauver de tout mal, soyez mon casque, ma cuirasse, mon épée et mon bouclier, et faites que mes ennemis cèdent devant votre puissance. Apprenez-moi à combattre la bataille spirituelle de telle sorte que, lorsque l'ennemi m'assaillira, armé de la tête aux pieds de l'armure de votre lumière, je puisse remporter sur lui une victoire parfaite, et de votre âge de combat, fendre la tête de celui qui mord la partie sur laquelle je marche. Alors, délivré des ennemis domestiques, je ne craindrai pas les cruautés des hommes, mais je serai, Seigneur, intrépide dans votre crêle, et pour vous je supporterai la perte de toutes choses, oui, même enfermé dans des cachots, je chanterai avec joie un cantique de louange à vous, mon Dieu, mon roi. Thomas Elwood, un chant de louange vé autre amour, cher Père. Et votre tendre soin ont fait naître dans mon cœur un vif désir de célébrer votre nom par de rares louanges, afin que d'autres aussi admirent votre bonté et apprennent à se soumettre à ce que vous demandez. Nombreuses ont été les épreuves de mon esprit, grandes mes disciplines, grande ma détresse, bien souvent mon ennemi a projeté ma ruine, mes peines alors ma plume ne peut les exprimer, ni les meilleurs des hommes ne pouvaient apporter remède. Ainsi assailli, je lève vers vous les yeux, et le cœur affligé, je fais ma plainte. Combien de fois ai-je crié, les yeux débordants, mon Dieu, on ne m'abandonnait pas, regardez mes larmes, prenez-moi en pitié, et pour la gloire de votre saint nom, Dieu éternel, que j'aime et que je crains, je déclare ici que je ne suis jamais venu devant votre trône et ne vous ai trouvé réticent à écouter, mais toujours prêt, l'oreille ouverte. Et quoique parfois il semble que vous cachiez votre face, comme si vous aviez retiré votre amour de moi, c'est afin que ma foi soit pleinement éprouvée, et que je vois ainsi d'autant mieux combien je suis faible lorsque vous ne me soutenez pas. Car sous votre bras saint, je sens une force qui m'enveloppe comme d'un mur, de sorte que si l'ennemi me fait trébucher, vous êtes prêt à me sauver d'une chute. À vous appartiennent, par-dessus tout, les actions de grâce, et pour votre tendre amour, mon Dieu, mon roi, mon cœur vous magnifiera tous mes jours, ma langue chantera chaque jour votre renommée, ma plume aussi dressera de reconnaissants trophées, comme monument de votre louange éternelle. Thomas Elwood sur l'excellentement savant John Milton. John Milton, 9 décembre 1608, 8 novembre 1674, était un poète anglais, polémiste en pro et fonctionnaire au service du Commonwealth d'Angleterre. Surtout célèbre pour son poème épique Le Paradis perdu, Milton est également honoré pour son traité éloquent condamnant la censure, Areopagitica. Il est depuis longtemps considéré comme le plus grand poète anglais. Dans ses dernières années, il devint aveugle, incapable de lire, mais toujours capable d'écrire. Il employa le jeune Thomas Elwood comme lecteur, lui transmettant son savoir et façonnant sa pensée et ses compétences d'écriture. Lorsque Milton demanda à Elwood de relire son nouveau travail, Le Paradis perdu, Elwood lui demanda s'il pensait écrire quelque chose sur le paradis retrouvé, ce qui aboutit bientôt au paradis reconquis de Milton. Elwood avait une profonde affection pour Milton et écrivit ce qui suit en hommage à ses accomplissements poétiques, une épitaphe. Est sous cette voûte embaumée repose celui dont la haute renommée ne mourra jamais, Milton, dont la plume si ingénieuse a obligé tous les savants. Grandes furent ses entreprises, nulle plus grande en son genre, ce qui déclare suffisamment la valeur et la grandeur de son esprit. Il déclina pauvrement les adversaires et joignit bataille avec les plus éminents. Même le portrait royal ne pouvait, dans sa fierté, tenir devant lui, mais tomba et se brisa incapable, semble-t-il, de supporter le lourd coup de sa main iconoclaste. Ainsi le si célèbre Ecom Basilike Astérisque devint le trophée de sa victoire. Astérisque l'Ecom Basilike signifiant portrait royal, était un recueil de poèmes représentant le roi Charlier, déposé puis décapité, comme un martyr chrétien. Il fut réimprimé plusieurs fois et était très populaire. Comme il éveillait la sympathie envers le roi défunt et nourrissait l'antipathie à l'égard du parlement puritain sorti victorieux de la guerre civile qui avait abouti à la déposition du roi, le parlement chargea John Milton d'écrire une réfutation, intitulé « L'iconoclaste », grâce à laquelle il parvint à retourner l'opinion publique, d'où la référence ci-dessus au lourd coup de la main iconoclaste. Sur son char triomphal attendait aussi celui qui avait longtemps porté la couronne du savoir et amassé de grandes réserves de renommée, mais qui n'avait jamais trouvé d'égal auparavant, ce qui l'avait enflé et rendu trop présomptueux. C'était le grand Salmatius, lui dont le nom s'était si haut élevé sur l'aile de la renommée, et qui n'avait jamais su jusqu'ici ce que c'était, hélas, de se courber, Salmatius écrivit pour justifier l'usure car plus d'un noble captif par le talon avait-il traîné en triomphe à la roue de son char. Mais maintenant, il consent à s'abaisser et à voir la branche arrachée de son propre front pour orner le front d'un autre. Cela lui brisa le cœur, car ayant perdu sa gloire, il mourut et difficile de dire si ce fut de chagrin ou de honte. Ainsi le grand Salmatius, dans son linceul, j'y prostrai au pied d'un Milton bien plus grand, Milton en qui se rencontrent tous les nobles dons. Il a ranimé la majesté de la poésie, poésie, littérature en forme métrique quittant la route commune et traçant vers l'Hélicon un chemin nouveau, Hélicon demeure mythique des muses pour écrire en mesure conçue sans rime. Il connaissait la beauté d'un vers bien fait, elle réside dans une juste et due proportion des parties, des pieds exacts, une cadence droite, une symphonie, chose que les poètes vulgaires pèsent à la légère, non dans le tintement d'une rime rude et recherchée. Il a laissé deux remarquables exemples de ce genre, issus naturellement de son cerveau foisonnant. L'un montre comment l'homme d'Éden fut dépossédé, le paradis perdu de Milton dans l'autre, l'homme reconquiert le paradis reconquis de Milton autant que l'idée n'eût pu l'atteindre. La nature posa en lui de larges fondations, et il y éleva aussi par-dessus une structure grande, certes, et assez belle, de matière bien préparée et finement polie, admirée de tous mais égalée de personne. De sorte qu'on pouvait dire de lui et très véritablement aussi, la nature et l'art avaient chacun joué son rôle, comme s'ils avaient fait un pari, à savoir lequel ferait le plus pour lui. Ses dons naturels étaient sans doute des plus amples, et de plus, il avait assurément acquis un savoir autant qu'on pouvait raisonnablement le souhaiter. Son savoir n'était pas plus connu qu'admiré. Profond et clair était son jugement, sa compréhension était de la plus haute trempe, sa raison abattait tout devant elle, tant elle paraissait impérieuse, démonstrative et limpide. Fantaisie élevée, pensée profonde, style concis et langue grande rendaient son discours complet, quel que fût le sujet qu'il traita. L'invention ne s'éleva jamais plus haut, ni en vers poétique ni en prose. Dans les langues, il avait acquis tant de savoir-faire qu'on eût pu l'appeler le polyglotte. Une Bible multilingue, même ceux contre lesquels il écrivit, ne pouvaient que admirer son esprit, et furent forcés d'avouer, car en vérité c'était en vain de nier une chose si évidente que leurs talents étaient moindres que les siens. À lui les muses envoyèrent, et cela aussi, non par compliment, car sans doute c'était son dû, comme tous ceux qui le connaissaient le savaient, le titre de très excellent, duquel titre puisse-t-il reposer maintenant et à jamais en possession, Thomas Elwood fin.